France Inter, le 18-20.
Il n'y a de dignité du travail que dans le travail librement accepté. C'est ce que disait Camus, une citation que m'a envoyée un internaute sur Twitter ce soir. Et d'un autre côté, on parle d'efficacité du système. C'est ce que dit le gouvernement, partant du principe que si le chômage de masse est si important en France, c'est parce qu'il faut traquer autant l'emploi que les failles des systèmes de retour à l'emploi, notamment les propositions de travail qui ne trouvent pas preneur et elles sont nombreuses. Ainsi va la philosophie de la réforme du contrôle des demandeurs d'emploi. On y parle des droits et aussi des obligations des chômeurs. Dans ce texte, il y a l'extension du droit au chômage, notamment pour les démissionnaires ou pour les indépendants sous certaines conditions. Il y a aussi une sanction d'un mois au lieu de deux en cas de manquement à un rendez-vous, notamment de Pôle emploi, on pourra en parler. Et puis, et c'est là que les discussions sont les plus vives, il y a les offres raisonnables d'emploi. Désormais, il n'y a plus de critères ultra précis sur le type d'emploi acceptable, mais une discussion entre demandeurs d'emploi et Pôle emploi, ce qui fait craindre à certains quelque chose de bien plus arbitraire. En gros, est-ce qu'on dit à un horticulteur au chômage après deux refus d'emploi proposés d'aller traverser la rue pour trouver un emploi dans la restauration ? Et c'est une vraie question, comme l'est le fait de sanctionner ou pas si le demandeur d'emploi refuse de le faire et à quelle hauteur, à quel moment par exemple devra-t-on parler salaire plus bas ou salaire très bas contre un emploi ? La sanction en cas de deux refus, elle existe déjà, c'est dans les textes, mais sera-t-elle appliquée donc différemment ? Selon encore une fois, quels critères ? Les syndicats évidemment se sont très vite prononcés pour une chasse aux chômeurs, fermez les guillemets. La question du timing de cette réforme en pleine crise des Gilets jaunes, elle a été évoquée aussi. Le mieux, c'est d'en parler ensemble et on fait ça tout de suite.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Andressez-vous la première, si je ne m'abuse. Soyez la bienvenue et bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, André, allez-y.
Voilà, je suis au chômage depuis le mois de février. La seule offre d'emploi qui m'a été proposée fin novembre, c'est une offre où l'on me propose d'être enquêtrice mystère sur Mont-de-Marsan afin d'analyser un établissement de qualité de service pour 2 heures. Donc cette ville se situe à 60 km de chez moi, donc ça me fait 120 km en sachant que les frais de déplacement ne sont pas pris en charge, il n'y a pas de frais d'achat, donc ça fait 19,94 € brut, voilà ce que l'on m'a proposé. Et donc lorsque l'on reçoit, en sachant qu'il faut avoir un bon sens de l'information, donner des collectes, collecter des résultats, compléter des formulaires, des questionnaires, des comptes rendus, tout ça pour 19,94 €. Et normalement, lorsque l'on reçoit une proposition d'emploi, on doit répondre. J'ai estimé qu'à une telle proposition, je n'avais pas à répondre. Donc, j'ai posé une réclamation en disant que ce n'était pas acceptable. J'attends toujours une réponse. Et de toute façon, on est coincé. Moi, je me retrouve au chômage parce que j'ai subi un licenciement abusif de la part du ministère de l'Agriculture qui est contesté, qui n'a jamais financé pour moi la moindre formation. Donc je ne peux avoir accès qu'aux formations financées par Pôle emploi, etc., etc. La réalité, elle est que c'est pas ces 1% de chômeurs qui sont le problème. C'est les 99 autres pourcents qui veulent sincèrement un emploi. Ouais.
André, juste une chose. D'abord, est-ce que ce travail d'enquêtrice qu'on vous proposait, d'abord, juste pour que les choses soient très claires, on a bien compris le problème de la distance, mais c'était dans vos cordes de compétences, en revanche.
C'est-à-dire qu'au départ, moi, je suis un analyste programmeur et je suis spécialisée pour les enquêtes de statistiques agricoles.
D'accord.
Donc, je connais très bien le domaine agricole. Et oui, si vous voulez, pourquoi pas, mais enfin...
Non mais d'accord, c'était le sens de ma question et merci d'y répondre, juste pour avoir une idée. La deuxième chose, et pardon c'est une curiosité mais on la posera beaucoup ce soir, parce qu'à un moment vous serez peut-être confronté à ça. André, la question du salaire contre l'emploi, vous vous l'êtes posée et en quels termes ? En gros, est-ce que vous vous dites et est-ce qu'on se dit quand on est dans votre situation, il faut d'abord et en priorité que je retrouve un emploi, quitte à ce que le salaire soit moins important que le précédent et j'accepterai de descendre au-dessous de temps. Est-ce que ce sont des choses qu'on se dit dans ces moments-là et qu'on calcule même ou pas ?
Alors, pour moi, la situation est très simple. Pendant 18 ans, j'ai accepté d'être sous-payé, même en du SMIC par l'État, de ne pas avoir de congés payés, de ne pas enfin, de n'avoir aucun droit durant 18 ans parce que j'habite à la campagne, j'avais 3 enfants à élever, ça me permettait de pouvoir aussi élever mes enfants. Donc j'ai fait ça pendant 18 ans et c'est le jour où j'ai demandé à être payée au SMIC que je me retrouve dans cette situation. Tout simplement. Donc je veux dire, on est déjà très nombreux à accepter des emplois où on est mal payé.
Et j'ai une dernière question pour vous, pardon, hein, de vous utiliser un peu comme auditeur étalon, André, mais puisque vous êtes la première, et je pense que c'est quelque chose qui va revenir souvent. Vos recherches, j'imagine que vous les étalez au-delà de Pôle emploi. Est-ce qu'il y a d'autres sources pour aller chercher de l'emploi et qui donc échappent, j'allais dire, à Pôle emploi, parce que vous n'allez pas chercher dans ces directions-là ou pas?
Alors, tout simplement, j'explique ma situation, j'ai 57 ans.
D'accord.
Donc, c'est déjà une situation assez difficile et vu les 18 années de travail précédentes, j'aurais besoin de me reformer pour D'accord. pouvoir trouver un autre emploi. Après, oui, bien sûr, je peux faire de l'aide à la personne, mais je sais même pas si on voudra d'une femme de 57 ans, surtout que je pèse pas même 48 kilos.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière et pour ce témoignage, André, qui va nous aider à, j'allais dire, à mettre les pieds dans le plat, en fait, et à parler des choses réelles autour de ces questions-là pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Et merci à eux d'être ici. Sylvain Maillard est là, bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche à Paris. Et bonsoir à vous, Denis Gravouille. Vous êtes responsable confédéral CGT Emploi Chômage. Un mot, Sylvain Maillard, pour commencer. Denis Gravouille, je vous donnerai la parole immédiatement derrière, évidemment, sur le cas d'André. Alors, c'est une première proposition. Il y en aura peut-être d'autres chez André, mais on est un peu dans un cas d'école là pour le coup. On n'est pas loin de sa compétence, ça peut s'envisager. On est simplement à 60 km. Est-ce que ça, par exemple, c'est une offre raisonnable d'emploi ou pas? Est-ce qu'on considère qu'on est dedans ou pas? Comment ça se passe?
Merci beaucoup, madame, déjà pour votre témoignage, parce que on sent bien dans vos propos le désarroi qui est le vôtre et donc qui appelle à une.
Et on sent la complexité aussi, c'est ça qui est intéressant.
Une complexité, une vraie réponse de la part de l'élu que je suis. En tout cas, je vais essayer d'en donner une ou quelques pistes. D'abord, sur l'offre raisonnable, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans la nouvelle loi qui s'appelle la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a été votée définitivement en août dernier, dont les décrets d'application, dont celui dont on parle, vient d'être publié. On a travaillé sur l'offre raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'une offre raisonnable? Et ça, c'était vraiment un point de discussion important entre le ministère, entre les partenaires sociaux, de ce que c'est. Nous, ce que nous avons décidé, d'abord, l'offre raisonnable, ça a toujours existé. Enfin, en tout cas, ça existe depuis plusieurs années, sauf qu'elle n'est jamais appliquée. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de sanctions, très peu de sanctions appliquées, dans l'organisation même de la sanction, c'était trop compliqué de faire en sorte que celui qui refusait finalement ou ne cherchait pas vraiment d'emploi, continuait à percevoir ses droits sans qu'il ne se passe rien, même si très clairement, on le voyait qu'il ne cherchait pas de travail. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire qu'une offre raisonnable pour vous, madame, par exemple, je prends l'exemple, c'est peut-être un exemple encore plus parlant. Vous êtes une femme, vous avez 2 enfants, 3 enfants, c'était votre cas à élever, vous devez les emmener le matin à l'école. Si on vous propose un travail qui commence à 7h du matin, qui correspond parfaitement à vos compétences, 7h du matin, si vous êtes un homme célibataire, pardon d'avoir des exemples très caricaturaux, mais un homme célibataire, à 7h du matin, vous pouvez prendre cet emploi. Vous êtes une femme avec 2 enfants, vous devez accompagner vos enfants. Pour vous, c'est pas une offre raisonnable. Pourtant, vous avez les mêmes compétences que ce monsieur. Vous savez exactement faire la même chose, sauf que pour vous, dans cet exemple-là, ce n'est pas une offre raisonnable. Pour la personne à côté, donc cet homme célibataire, c'est une offre raisonnable. Et donc, ce qu'on a voté dans la loi, c'est que c'est le conseiller Pôle emploi avec tout un système de protection, c'est-à-dire que c'est le directeur régional qui prendra la décision après une décision collective qui décidera si vous refusez plusieurs offres qui sont jugées raisonnables. Donc on a en tout cas cherché à faire dans la loi, d'appliquer dans la loi des principes qui sont humains. Vous cherchez. Il faut vous encourager, il faut vous aider. Et évidemment qu'on a du travail, on en parlera ensemble un peu plus tard. Mais il faut que ceux qui ne cherchent pas d'emploi, pour plein de raisons, et on en parlera aussi, je pense, soient aussi incités à vraiment travailler.
Mais parce qu'elle a cité un chiffre de 1%, André, alors elle n'est pas tout à fait dans la réalité, c'est 8%. Ce sont des chiffres qui ont été donnés, y compris par Pôle emploi.
Les chiffres, il y a discussion, je ne vous cache pas qu'on en a discuté avec
tout à l'heure. Moi, je me base sur une étude qui date de 2017 et qui vient de Pôle emploi et qui dit que 86% des chômeurs recherchent activement un emploi. Donc effectivement, on n'est pas dans les 1% dont parle André, on est un peu plus, un peu au-delà, on est à 8%. Et en même temps, 86% 86% qui recherchent activement un emploi. Qu'est-ce que ça... Est-ce que vraiment ça change quelque chose de travailler activement sur ces 8% qui restent, Sylvain Maillard?
D'abord, je vais être très honnête avec vous, il peut y avoir contestation sur les chiffres. On peut avoir discussion sur les chiffres parce que c'est évidemment de la matière humaine, de la matière très sensible, et c'est compliqué de ça. Moi, des grands principes généraux... D'abord, il faut que le travail paie plus en France, très clairement. Il faut que le travail paie plus en France et qu'il y ait une vraie différence entre une indemnisation chômage et la personne qui travaille. Il y a, en tout cas de mon point de vue, trop peu d'écart sur la plupart des salaires, trop peu d'écart entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas.
Attendez, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires ou baisser les indemnités?
Vous avez tout à fait raison, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Moi, je pense qu'il faut évidemment augmenter les salaires. Pour augmenter le salaire net... Et donc, il faut aussi, pour ça, pour que les entreprises restent compétitives, il faut que nous baissions les charges sociales. C'est quelque chose, c'est un ensemble, puisque quand vous êtes au chômage, c'est vos cotisations, les cotisations de ceux qui travaillent, qui payent ceux qui ne travaillent pas. Donc, il y a un équilibre à trouver, tout un accompagnement, on aura l'occasion pendant toute cette heure d'en discuter, il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, l'équilibre à l'heure actuelle ne nous semble pas pleinement satisfaisant.
Alors, Denis Gravouille, il y a beaucoup de choses là, et notamment dans ce qu'a dit André, y compris dans la réponse de Sylvain Maillard, pour essayer de se recadrer, de se recentrer. Pourquoi c'est pire aujourd'hui, selon vous, d'avoir un face-à-face, en gros, avec monsieur ou madame Pôle emploi, sur un emploi qui est à 60 km ou à 50 km en fonction des enfants, etc., plutôt que de se fier, comme c'était le cas jusqu'à présent, quelque chose qui ressemblait plus à un algorithme, au fond, avec des critères extrêmement précis? En quoi c'est moins bon cette fois?
Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, André, elle parle d'un emploi à temps partiel. Elle parlait d'un emploi à 2 heures par jour. Et donc ça, c'est déjà totalement inacceptable. Elle dit, est-ce que je vais aller prendre du temps pour aller gagner moins de 20 euros par jour? C'est évident que ça pose des questions. Oui, en plus. Par ailleurs, c'est même pas rentable pour en termes juste financiers. Par ailleurs, on a une explosion des contrats précaires, des contrats à temps partiel, des contrats ultra de la précarité, et encouragé par les ordonnances, la loi travail et autres au passage, avec des contrats, on a de plus en plus de gens qui sont sur des contrats très précaires, et généralement avec des temps de travail extrêmement faibles, avec des salaires extrêmement faibles. Alors donc oui, chiche, augmentons les salaires, et au passage ce sera meilleur pour la protection sociale, parce qu'il y aura plus de cotisations. Donc ça, c'est le premier des points. D'ailleurs, vous n'avez pas augmenté le SMIC, et les annonces d'Emmanuel Macron n'augmentent pas le SMIC. Il y a une augmentation de la prime pour l'emploi, mais il n'y a pas d'augmentation du SMIC. C'est même en dessous de l'inflation. Bon, première chose. Ensuite, sur les chiffres. La fraude, c'est 0,4%. Les sanctions, elles amalgament les fraudeurs, la triche, c'est 0,4%. Les 8%, c'est parmi les indemnisés des gens qui pourraient faire plus. Dedans, il y a des gens découragés, et puis il y a des gens qui n'ont juste pas répondu à des messages, où Pôle emploi n'envoie même pas un mail avec un accusé de réception pour convoquer quelqu'un à un rendez-vous. Donc, et puis, au contraire, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de prévoir, vous parliez d'algorithmes, des sanctions qui seront appliquées automatiquement, crachées par l'ordinateur, alors que quand on a des agents, justement, la sanction sur les 2 mois qui passent à 1 mois, en réalité, on va l'alourdir, parce que personne n'est sanctionné pour manquer un rendez-vous à 2 mois de suspension d'allocation, et surtout de suppression, puisque c'est le durcissement qui a eu lieu au 1er janvier, parce que les agents, ils savent bien, ils rappellent la personne pour essayer de voir s'ils peuvent lui trouver quelque chose. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur... Merci André de votre témoignage, j'ai presque tout dedans, y compris sur les offres de Pôle emploi. Il y a beaucoup de choses à dire depuis qu'elles sont plus vérifiées et qu'on se retrouve avec des offres illégales.
Et bonsoir Philippe.
Oui, allô.
Bonsoir Philippe, soyez le bienvenu, oui, vous êtes conseiller à Pôle emploi, du coup,
oui,
votre avis nous intéresse, allez-y.
Tout à fait. Et je rajouterais aussi que je suis militant syndical. Il faut quand même rappeler qu'on est en train, et on le voit bien depuis longtemps, de s'en prendre aux personnes qui sont complètement coincées dans la précarité. Denis le rappelait, hein, les embauches en CDD en 2017, c'était 87% des embauches. 30% de ces embauches, c'était une seule journée. Donc on voit bien ce qu'est l'emploi dans notre pays. On voit qu'il y a un taux qui est calculé, qui est important, les gens devraient le connaître, c'est le taux de rotation. C'est comparer les entrées et les sorties dans l'emploi. Mmh. En 1993, 29%. En 2017, 96%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ces personnes sont en permanence plongées dans la précarité. et dans quelque chose qui devient permanent. D'ailleurs, il y a un mot horrible qui a été inventé pour cela. Et puis, on voit bien aussi pourquoi, comment on veut s'en prendre à ces personnes. Le nombre de contrôleurs va être multiplié par 5 à Pôle emploi. Et pendant ce temps-là, on va supprimer 1300 emplois. Il y a déjà les contrats aidés qui ont été supprimés, 1300 aussi. Ça veut dire que dans les agences, il y aura en moyenne, si on prend l'Île-de-France, mais c'est pareil dans les autres régions, 2 agents en moins par agence en moyenne. Ça veut dire 2 agents en moins pour s'occuper de ces personnes qui ont besoin qu'on les reçoive,
Philippe,
qui
vous,
ont besoin qu'on les aide.
Vous qui êtes conseiller à Pôle emploi, ceux qui ne cherchent plus ou qui ne répondent pas aux courriers de Pôle emploi ou qui sont dans des refus, pourquoi pas, vous les voyez?
Bien sûr.
C'est qui ces gens en fait? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a un portrait qu'on peut faire de ce chômeur-là?
Bien sûr, ce sont des gens qui effectivement sont découragés, ce sont des gens qui sont confrontés à des formations qu'on leur impose et qui ne riment à rien. On a eu en Ile-de-France une formation en pâtisserie où il faut savoir que c'était dans le plan 500 000 formations, pendant leur formation, les personnes ont fait un gâteau, une autre formation sur les emplois administratifs, ils ont commencé leur formation. Il n'y avait même pas un ordinateur. On a demandé à un demandeur d'emploi de prendre sa voiture, d'aller chercher des ordinateurs au siège de l'organisme de formation qui pourtant avait été labellisé et qui touchait l'argent des pouvoirs publics consacrés à l'emploi. Donc ce sont des gens qui sont effectivement complètement découragés aussi par l'automatisation. Il faut savoir que sans arrêt, ils sont confrontés à des démarches automatiques, des courriers qui leur sont envoyés. S'ils n'ouvrent pas leur espace, enfin, il suffit qu'ils aient un problème avec un ordinateur, ils n'ouvrent pas leur espace et on n'arrête pas de leur demander de valider une adresse mail pour que tout se fasse, se dépose sur leur espace. S'ils ne l'ouvrent pas, automatiquement c'est indiqué et c'est considéré comme un manquement, c'est-à-dire ils n'ont pas vu une convocation parce qu'ils n'ont pas pu ouvrir leur ordinateur et ils s'en prennent plein la figure.
Merci Philippe.
Il faut rappeler aussi, je voudrais quand même rappeler une chose
rapidement.
Par rapport à le décret qui vient d'être pondu là. Là, il y a quelque chose de très important. Je pense que Denis Gravouille en parlera. Avant, quand il y avait un manquement par rapport aux recherches d'emploi, il y avait une suspension, donc un arrêt de l'inscription, admettons un mois, et une suspension de l'indemnité. C'est-à-dire que les droits étaient suspendus. Maintenant, ils sont supprimés. Et ils peuvent être supprimés jusqu'à 4 mois. Il faut savoir que ce système-là qui a été mis en place en Angleterre, il précipite les gens dans l'aide sociale et vers les banques alimentaires. Et ce sont les conseillers des job centers qui remettent ceux qui ont sanctionné, qui remettent les bons pour aller dans la banque alimentaire.
Merci.
Si on veut le même système, c'est inadmissible. C'est pas supportable.
Le politicien
que vous avez, il a parlé de caricature. Bah, c'est lui qui est une caricature.
C'est bien de le laisser parler aussi, Philippe. Merci beaucoup de votre appel. Sur ce que dit notre auditeur Philippe, conseiller à Pôle emploi, Sylvain Maillard, comment on ramène surtout à l'emploi ces gens dont il parle en fait? Ceux effectivement qui ne répondent pas, parce que la vraie clé elle est, c'est celle-là.
Permettez-moi de répondre. Allez-y. Répondre dessus parce que je voudrais pas être dans un faux jeu de les gentils contre les méchants, le méchant député contre le gentil assistant ou travailleur de Pôle emploi. D'abord, profondément, c'est une matière humaine dans laquelle il est difficile de répondre sur des généralités. Le premier témoignage qu'on a eu d'André le montre pleinement. Et donc, c'est une matière humaine sur laquelle il faut réagir de façon humaine. Moi, le témoignage que vous venez de faire, Philippe, je trouve ça caricatural. Vous voyez, vous m'avez dit que je suis caricatural, peut-être, et je m'en excuse. Je pense que ce que vous venez de dire est caricatural. Et si vous-même, vous travaillez au sein de Pôle emploi, ça m'inquiète, parce que si vous avez le moral dans les chaussettes, comme vous venez de dire, je ne vois pas comment vous allez pleinement pouvoir aider les personnes en face de vous.
Il y a eu 40% de grévistes le 20 novembre.
Je me permets juste là-dessus. Non mais, qu'il y ait des soucis. Donc je vais rebondir dessus. Sur Pôle emploi, sur l'organisation de Pôle emploi, évidemment qu'il faut organiser de façon différente. Ça, on est très dessus. Il faut être très clair. Il faut un système, à mon avis, c'est mon avis personnel, où on aide beaucoup plus le demandeur d'emploi dès le début. On doit beaucoup plus l'accompagner dès le début. Vous parliez des formations ratées en prenant des exemples. Mais c'est terrible ce que vous dites. C'est terrible.
Et qui existe.
Et très... Mais, peut-être, en tout cas, c'est terrible, et parce que c'est de l'argent public aussi. Non seulement on fait perdre du temps à des demandeurs d'emploi, on les décourage, mais en plus, on dépense de l'argent public pour des formations qui n'existent pas. Donc nous, ce que l'on a fait dans la réorganisation avenir professionnel, donc qui est en train de se mettre en place, hein, qui n'est pas pleinement mise en place à l'heure actuelle parce que ça met du temps, c'est justement de monter en qualité sur les formations, entre autres sur la labellisation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la certification. Ça me semble quelque chose d'essentiel. Il ne faut plus que nous dépensions de l'argent. Il faut mieux dépenser plus pour les formations. Moi, je pense qu'on dépense parfois pas assez pour les formations. Voire même, il faudrait toujours dépenser plus pour les formations parce que une formation au rabais, c'est une personne où on donne pas sa chance de retrouver d'emploi. Il faut qu'on s'améliore.
Mais attention,
n'est pas noir comme nous venons de l'entendre.
Non, mais comment on fait les gens que décrit notre auditeur et qui ne vont plus, en fait, qui n'ouvrent pas forcément le système pour trouver les messages parce que ça fait X mois maintenant, les gens qui sont découragés, tous ces gens-là existent.
Moi, je pense.
Est-ce que la solution, c'est comment on fait pour les ramener? Est-ce que la solution, c'est effectivement de sanctionner une sanction qu'ils ouvriront, qu'ils ne verront d'ailleurs certainement pas immédiatement sur leur ordinateur? Comment est-ce qu'on les ramène plutôt à l'emploi avant de parler de sanctions au fond?
Alors, permettez-moi de parler peut-être un peu de mon expérience parce que je suis député, mais je suis en même temps chef d'entreprise. Et je passe beaucoup de temps en Allemagne et dans les pays scandinaves où j'ai des salariés aussi là-bas. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a un accompagnement humain beaucoup plus fort dès le début de la perte d'emploi ou de la démission, parce qu'il y a aussi le cas des démissions, on en parlera peut-être aussi, où il y a vraiment discussion dessus. Démission ou des ruptures conventionnelles, c'est un sujet sur lequel je travaille, sur les ruptures conventionnelles, où je pense qu'il y a vraiment matière à améliorer le système. L'idée est assez simple, il faut qu'on donne plus de temps humain au début, parce que perdre son emploi, particulièrement quand on perd son emploi, une rupture difficile psychologique qui est aussi importante que pour la préparation de l'emploi suivant. Et je pense que nous mettons pas assez le paquet dessus. Il faut qu'on travaille dessus. Peut-être plus de personnes. Très sincèrement, il y a une discussion à avoir aussi avec l'organisation de Pôle emploi, mais de faire en sorte qu'il y ait un plus grand accompagnement dès le début. Parce que ça justifiera plus facilement aussi la sanction si la personne ne joue pas pleinement son rôle. Et cet accompagnement, c'est ce qui permet de basculer plus facilement d'un ancien emploi vers un nouvel emploi, vers une nouvelle carrière ou une reconversion. Parce que moi, je pense beaucoup aux reconversions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses d'évolution. Les métiers sont changeants en permanence. On va se former tout au long de la vie. Et il faut qu'aussi Pôle emploi l'accompagne.
Denis Gravouille, pour répondre, on va retourner au standard aussi dans un instant.
Très rapidement, il faudrait commencer par ne pas baisser les budgets de Pôle emploi et supprimer des postes à Pôle emploi. Vous avez raison, il faut plus d'accompagnement. Il faut que les gens rentrent plutôt en formation. Et il faut que les formations soient longues et qualifiantes. Il ne faut pas faire des formations au rabais. Sauf que le PIC 500 ou le 500 000, on est sur des formations au rabais parce qu'à 8 000 euros, on ne peut pas faire une formation qualifiante à apprendre un métier en quelques jours ou quelques semaines. Et puis, dernière chose...
Ça dépend de la formation.
Mais les formations dont ont besoin les personnes, c'est généralement pour monter réellement en qualification. Et puis, dernière chose, sur les emplois dont pourvu, il faut juste mettre fin à un mythe. Il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, sans compter tout le halo autour du chômage. Il y a 300 000 offres dites non pourvues. En réalité, la moitié d'entre elles, ce sont le temps de pourvoir des emplois qualifiés parce qu'on trouve pas un ingénieur en informatique comme ça. Et l'autre moitié, c'est les entreprises qui renoncent. Là, il faut regarder là-dessus. Mais même s'il y a 150 000 offres qui sont critiquables, on va pas d'un seul coup justifier par ces 150 000 offres le fait d'augmenter les sanctions contre les chômeurs pour les obliger en réalité à prendre n'importe quel emploi dégradé. Et c'est un peu ça qui est en arrière-plan, parce que l'Allemagne l'a fait avec les mini-jobs, la Grande-Bretagne, c'était cité par Philippe, l'a fait avec le contrat zéro heure. En fait, il faut une armée de précaires qui soit prête à prendre n'importe quel boulot.
Très honnêtement, c'est pas du tout
exactement ça qui est justifié derrière.
J'entends ce que vous
les
dites.
Les sanctions,
je le respecte,
et l'obligation
c'est
à le faire.
C'est pas du tout ce qu'on veut faire.
C'est la logique des réformes, des ordonnances.
Il y a une logique. J'ai beaucoup aimé, votre propos introductif tout à l'heure, parce que il y a une logique qui fait que on est passé quand même globalement d'un système qui était un filet de protection qui nous semble essentiel à un revenu qui, pour dans bon nombre de cas ou dans un nombre conséquent de cas, est un revenu parmi d'autres, donc le revenu de l'indemnisation chômage. Et donc, il n'y a pas forcément une envie de reprendre un emploi quand on peut reprendre un emploi. Et moi, je voudrais pas qu'on parle uniquement des personnes qui sont en grande difficulté. On a eu le cas d'André tout à l'heure, mais on a le cas aussi beaucoup chez des cadres confirmés, des cadres qualifiés. Moi, je suis député de Paris, je peux vous assurer que les chefs d'entreprise m'en parlent en permanence. J'ai énormément d'exemples sur lesquels et non pas caricaturaux, des vrais exemples sur lesquels finalement reprendre un emploi n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant.
Chômeurs.
Encore une fois, c'est quand même assez marginal ce genre de cas, Sylvain Maillard, honnêtement, non?
Sur des cas, alors On parle de chiffres, mais je prends toujours des pincettes dessus parce que c'est de l'humain et donc c'est toujours compliqué dessus. On estime en tout cas le directeur de Pôle emploi, c'est en audition publique, je lui ai posé la question là-dessus, sur des parcours d'ingénieurs par exemple, on estime qu'il y a entre 12 et 18% sur l'Île-de-France, particulièrement sur l'Île-de-France, je ne vais pas demander sur l'Île-de-France, de personnes qui ne veulent pas reprendre un emploi pour une raison de confort personnel, ou en tout cas à court terme. Ils estiment qu'ils retrouveront immédiatement un emploi un peu plus tard, et donc prennent un peu de temps.
Donc voilà. Sur 12 à 18% des ingénieurs d'Île-de-France payaient plus de 6 000 euros. C'est un peu quand même une caricature, là.
Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que vous allez toujours trouver un exemple en disant finalement, on ne change pas le système. Moi, ce que j'entends, c'est la souffrance d'André, tout à l'heure, la souffrance de Philippe en travaillant. Et donc, je dis que le système ne peut pas continuer comme ça. Mais j'entends aussi tous ceux qui travaillent et qui disent moi, je travaille, et pourquoi celui qui ne travaille pas à côté gagne la même chose. Donc, c'est une réflexion d'ensemble. On est dans un conflit très fort à l'heure actuelle. Donc, il y a une modification à faire et faire en sorte que, et je le redis, le travail doit payer plus. Les formations doivent être plus efficaces. Ouais. Et donc, nous devons travailler tous ensemble.
La crainte qu'on a entendue, notamment sur ce qu'on appelle les mini-jobs en Allemagne ou les jobs à zéro heure, effectivement, en Angleterre, c'est qu'on en arrive à ce genre de système-là. Vous, est-ce que vous dites, il vaut mieux un emploi, et même si on est moins bien payé que le précédent, il vaut mieux un emploi qu'autre chose, en fait. Oui, au travail et non à l'indemnité. Effectivement, alors, en fonction des chiffres, y compris si on est très loin de ce qu'on gagnait précédemment. Est-ce que c'est ça le message aussi que vous souhaitez envoyer, et qu'il faut envoyer le travail d'abord, le salaire après?
Dans la généralité, non. Il faut regarder cas par cas. Oui, parfois, il faut mieux que les personnes reprennent un travail. Parfois, j'ai plein de cas, pardon, je ne vais pas rentrer, on va plutôt écouter vos auditeurs. Plein de cas où c'est mieux pour la personne en elle-même de reprendre un emploi, pour reprendre confiance, pour changer un cap, même moins payé, pour passer à autre chose. Et puis dans d'autres cas, non, elle a plutôt intérêt à attendre un mois, deux mois, trois mois, parce qu'elle va retrouver un emploi. Moi, je pense qu'il faut très rapidement que Pôle emploi aide à la personne qui recherche un emploi, de dire, est-ce que vous avez retrouvé dans votre branche, dans ce que vous voulez faire, est-ce que vous avez retrouvé un emploi? Est-ce que oui et non? Est-ce que vous devez bouger? Est-ce que vous devez réapprendre un autre métier? Je crois qu'il y a tout ce travail qui n'est pas suffisamment fait, de diagnostic, de presque de bilan de compétences, dès le début de la perte d'emploi. Et donc, votre réponse, elle est compliquée à donner d'une façon générale. Par contre, il y a des cas où, oui, ma réponse est clairement oui.
André nous appelle du Morbihan. Bonsoir, André.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, André.
Écoutez, j'hallucine un peu quand j'entends ce que je considère un peu comme du baratin de certains des intervenants. Je sais qu'à La République En Marche, on rêve, hein, on a des belles idées, mais on est complètement à côté du véritable problème. J'entends parler que de sanctions. Quand j'entends parler de formation, je suis d'accord. Mais on va faire toujours des comparaisons qui sont complètement aberrantes. Vous parliez des pays nordiques, mais il faut savoir qu'au Danemark, quand on forme les gens, à 80% ils sortent avec un boulot. En France, c'est absolument pas le cas. Quand on est aux États-Unis, qu'on travaille un jour dans le mois, on n'est pas chômeur. Donc, vouloir faire des comparaisons, vouloir parler que de sanctions, on va pas avancer. Est-ce que vous savez, moi en tant qu'économiste, je regardais encore tout à l'heure, que la conjoncture internationale, que la conjoncture en France est en train de chuter, et que la croissance dont on a besoin pour embaucher des gens, cette croissance, on ne l'aura pas. On est constamment en train de rectifier à la baisse cette croissance. L'idée, elle est très simple. Elle est de former des gens par rapport à des emplois qui peuvent exister. Or, la politique actuelle, c'est la politique aussi des autres gouvernements, c'est une politique de l'offre. Comment voulez-vous, avec une politique de l'offre, que vous ayez des consommateurs qui puissent permettre d'ouvrir, de remplir un carnet d'ordre? C'est le carnet de commande qui commande. Si vous n'avez pas de carnet de commande, l'entrepreneur, il n'embauchera pas. J'en rencontre tous les jours, moi, des entrepreneurs. Eux, ce qui les dérange, c'est nos problèmes administratifs, et c'est le fait que, actuellement, La demande est à tonnes, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais parce que on n'a pas, justement, on n'a pas de possibilité. C'est pas les 90 euros qui étaient une avance sur les années qui vont permettre aux gens qui sont en bas de l'échelle de pouvoir vraiment consommer. C'est complètement inexact. Les Américains se moquent de nous qu'on prend des mesures parce que on saupoudre. Là où il faudrait, sachez juste une dernière chose. Mmh. Aux États-Unis, leur SMIC est actuellement inférieur à 30% au nôtre. En 2020, il sera supérieur de 25%
alors,
au nôtre.
Alors ça dépend des États, André. Ça se passe un peu. Il y a un SMIC fédéral, il y a des SMIC par État.
Oui, attendez. Moi, je suis en train de travailler là-dessus. La moitié des États américains, en 2020, offriront exactement $15 de l'heure, c'est-à-dire 13,30 € et quelques au cours actuel à 1,14. Et nous, on est encore à la ramasse à 10 €. La différence, elle est là.
Pas le même modèle social.
Eux, ils mettent les moyens. Ouais, ils mettent les moyens. C'est tout.
Et là aussi,
augmenter les salaires, voilà. C'est pas une question de modèle social.
La comparaison. Merci André pour votre témoignage. En tout cas, c'est vrai que c'est compliqué la comparaison avec les pays, un pays comme les États-Unis qui par ailleurs a un modèle social qui est tout de même largement inférieur au nôtre. Il y a une vraie question sous ce que nous dit André. Malgré tout, Denis Gravouille, qu'est-ce qui crée le chômage? Est-ce que c'est le demandeur d'emploi qui ne cherche pas assez, qui ne va pas là où il faut et où les formations ne sont pas là, ou est-ce que ce sont les carnets de commandes qui sont vides? On a l'impression qu'on se mord un peu la queue là-dessus, évidemment.
Je pense aussi que c'est d'abord les carnets de commandes, et puis de toute façon, il faut regarder, hein, s'il y a 6 millions de chômeurs, il y a 150 000 offres d'emploi disponibles sur lesquelles c'est pas facile de dire à un horticulteur, tu vas devenir ingénieur informatique. Il y a une question d'investissement dans la formation, ça c'est sûr. Ça s'est fait, il y avait un consensus dans les années 70-80 de monter le niveau de qualification, de former énormément les personnes, et là, ce consensus, il est tombé à l'eau parce qu'on veut des formations de plus en plus courtes, des gens de plus en plus précaires. Ça, c'est là, il y a une vraie question. Et le plan formation dans le volet de la loi du 5 septembre est totalement insuffisant. Y compris des économistes de tous bords le disent. Donc là, il y a une vraie question. Et puis globalement, il y a une vraie question sur les salaires. Mmh. C'est une question globale. Et en tout cas, c'est certainement pas la faute des chômeurs si le chômage existe.
Sylvain Maillard, je le disais tout à l'heure en introduction, et pour reprendre un exemple bien connu et très sincèrement, quand on parle d'offres raisonnables et de retourner à l'emploi, de retrouver un travail et avec tout ce que ça comporte, est-ce que ça veut dire que effectivement, à un moment, il faut demander à un horticulteur de faire un travail qui n'est pas dans sa branche de compétences, parce que au moins, il trouvera un travail. Est-ce que comme le disiez tout à l'heure, comme sur le salaire dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça aussi, ça fait partie d'un argument? Bah oui, peut-être qu'il faut jouer à ça également.
Ça dépend de sa mobilité. Ça dépend de sa situation familiale, ça dépend de son âge, ça dépend de plein de choses, c'est de la matière humaine, tout simplement. Et vous prenez évidemment l'exemple du président de la République, dont il a en face de lui un jeune qui a 25 ans, et qui a priori n'a pas de charge de famille. Donc peut-être que la réponse peut sembler caricaturale, mais la raison, c'est que évidemment que si vous avez une même personne avec trois enfants et dans une région, c'est plus compliqué.
Et même il a appris un métier, il a pas envie d'aller faire quelques heures de serveur dans un bar, s'il a appris un métier dans lequel il sera motivé, qui va faire très bien.
J'ai appris un métier et puis j'ai changé trois fois de métier. C'est la vie. Et tant mieux. C'est important si tout au long de la vie on va changer. Ceux qui apprennent à l'heure actuelle à faire du codage et gagnent très bien leur vie faire du codage, dans quelques années on en aura plus besoin parce que l'intelligence artificielle aura fait. Mais ils feront autre chose et c'est très bien. Il faut accompagner cette formation. Moi, ça me semble essentiel. Moi, je suis pas. Deux points sur lesquels je voudrais rebondir. Vas-y. Par rapport à ce que vient de dire Denis Gravouille. Un, n'oubliez pas, on a un vrai souci en France, qui était une vraie caractéristique. On a 1,3 million de jeunes, 1,3 million de jeunes à l'heure actuelle, qui n'ont ni formation, ni emploi. Donc, même si on avait 3%, 4% de croissance, on n'arriverait pas à leur trouver de l'emploi. Donc ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'on a fait le PIC, donc le plan d'investissement en compétences, où on met 15 milliards sur la table, jusqu'à la fin du quinquennat, 15 milliards sur la table, pour pouvoir les former, pour faire en sorte que 2 millions de chômeurs puissent être formés. Il y a aussi ceux qui sont depuis plus de 2 ans dans le chômage, mais aussi que ces jeunes puissent accéder à une vraie formation. Et il faut être très... Moi, je suis d'accord avec vous,
ce que dit Denis Gravouille. Et la sélection à l'université.
C'est très important que nous soyons très exigeants sur les formations et surtout sur le potentiel de ces formations. On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a vraiment travaillé dessus pour améliorer. Moi, ça me semble quelque chose d'essentiel.
Je voudrais qu'on prenne un dernier auditeur en ligne. Yves, vous attendez depuis 22 minutes. Pardonnez-moi, on vous écoute, allez-y.
Non, mais c'est pas le problème. Là, bonsoir à tous. Merci Fabienne Saintès là pour votre ténacité. Là, c'est pas facile. Moi j'avais un petit problème, mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce que j'entends là, c'est que la logique là de la politique actuelle, là, c'est un petit peu comme les centres de finances publiques là qui retirent les chaises dans les salles d'attente en espérant que les gens viendront plus, mais si on va aux finances publiques, c'est parce qu'on a besoin d'y aller, parce qu'on a un problème, parce qu'il faut payer les impôts, et c'est pas de sanctionner qui va créer des emplois. J'entendais dans un reportage d'Hervé Pochon là l'autre jour sur un marché parisien, il avait une dame là qui disait ah ben moi j'embaucherais bien mais je trouve pas de gens qualifiés. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'elle vend là qui nécessite une telle qualification, avec tous ceux qui sortent avec un bac pro de commerce tous les ans? Elle va me dire qu'elle va pas trouver quelqu'un là pour vendre des pommes ou des robes ou des chaussures sur un marché. Non mais enfin là on se fiche du monde quand même avec ça. Alors moi je suis diplômé et malgré tout je suis au chômage, parce que quand vous êtes diplômé, eh bien ça fait souvent peur à un employeur là, parce qu'il va se dire ah ben celui-là je vais être obligé de le payer plus celui-là. Bon, et puis il va y avoir autre chose. Il va se dire aussi, ah bah oui, mais bon, lui avec un bon CV, là, parce que le nombre de fois où on m'a dit, vous avez un bon CV, bah oui, moi je réponds, mais moi je préférerais avoir un bon boulot plutôt qu'un bon CV, là vous comprenez? Et puis alors, dans ces cas-là, bah, on va donner la priorité à celui qui a un moins bon CV que le mien, là, parce que en se disant que moi je vais me trouver plus facilement.
Yves, voilà. Pardon de vous interrompre, Yves, mais je voudrais vraiment qu'on puisse vous répondre autour de la table et il nous reste à peine 2 minutes dans ce téléphone sonne. Merci en tout cas pour votre témoignage. Denis Gravouille, d'abord pour répondre à ce que dit Yves.
Ce que dit Yves, c'est qu'il a une qualification et ça correspond à votre citation du début. C'est que oui, on cherche un travail. Quand on a choisi un travail, on cherche à le faire dignement et c'est pas forcément n'importe quel boulot. Sinon, ça accélère le turnover. Ça, c'est connu. Et je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que dans la loi, il n'y a pas seulement les sanctions qui sont passées au 1er janvier, mais il y a une négociation assurance chômage qui a été rouverte contre l'avis de tout le monde et qui prévoit, avec l'aide de cadrage, une baisse de 3,9 milliards sur 3 ans. C'est-à-dire, en gros, au 1er juillet, des baisses des droits des chômeurs entre 3, 10, 30% pour certains chômeurs, parce qu'on cible des chômeurs précaires, des assistantes maternelles ou des intérimaires, par exemple.
Sylvain Maillard, il y a...
Je voudrais répondre à votre auditeur.
Allez-y.
Pardon, parce que j'entends et vous savez quoi, je vais mettre dans la peau de ma deuxième vie de chef d'entreprise. Monsieur, vous savez, pour un employeur, en tout cas pour une partie des employeurs, quand vous avez en face de vous une personne qui vous semble surqualifié par rapport à un emploi, c'est aussi un problématique parce que vous dites elle va s'ennuyer dans le travail ou bien ça va mal se passer et c'est dans une gestion d'équipe et parfois votre qualification peut faire peur à un c'est peut-être pas votre cas, mais peut faire peur à un employeur. Donc c'est vrai que je le répète, c'est de la matière humaine, c'est compliqué. Moi je crois qu'il faut un accompagnement beaucoup plus important dès la perte d'emploi. Je pense que cette période, ces quelques semaines qui à la cessation d'un emploi sont fondamentales, sur lesquels il faut que nous investissions beaucoup plus sur la formation professionnelle. Nous mettons déjà de l'argent dessus. Pourquoi pas aller plus loin? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ces moments-là qui sont le plus important, et faire en sorte qu'aussi, mais ça c'est ma conviction, oui. Il faut des CDI. Si vous avez pas, il faut plus de CDI, parce que c'est comme ça que les personnes s'investissent, les employés s'investissent plus dans une entreprise. Ça, je crois qu'il y a aussi une culture à changer en France, qui est particulièrement du côté du patronat, du patron, pardon. Je pense que c'est quelque chose qui me semble essentiel.
Alors, CDI,
il y a
CDI,
il y a beaucoup de travail en tout cas sur la table.
Ce point de vue-là, et notamment du point de vue CDI, CDD aussi, et pardon de vous interrompre. Mais vous avez entendu les bips comme moi. Merci à tous en tout cas pour vos nombreuses questions et portez-vous bien.